Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Academy. Il y a un peu moins d'un an, l'émission Un jour dans l'histoire s'était penchée sur une page peu connue de l'histoire de la Reconquista, celle de l'archipel des Baléares en 1228. Cette conquête des îles Majorque, Minorque et Ibiza avait été réalisée par Jacques Ier, dit le Conquérant, appelé également Jaume Ier. Né à Montpellier en 1208, il était le maître d'un vaste espace géographique qui s'étendait du Languedoc en France aux portes de Murcie en Espagne, incluant donc la Catalogne, l'Aragon, le pays valencien et bien sûr les Baléares. Quasiment oublié de nos jours, Jacques le Conquérant, qui vécut à la même époque que Saint-Louis et Frédéric Hohenstaufen, reste cependant un des rois les plus importants du grand XIIIe siècle. D'autant plus important qu'il laissa à la postérité un témoignage autobiographique d'une richesse exceptionnelle pour l'historien et l'amateur. En effet, œuvre majeure de la littérature catalane, passionnante à bien des égards, le Livre des Fées offre surtout l'image d'un roi pragmatique ayant une capacité impressionnante de recul sur les événements et les hommes de son temps, le tout mené avec un humour tout aussi original. Cette œuvre, le Livre des Fées, resterait dans l'oubli si elle n'avait fait l'objet dernièrement, et pour la première fois, d'une publication en langue française par une société régionale amoureuse de son passé et de ses terres, la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales. Plus qu'un outil à l'usage de l'historien, le Livre des Fées de Jacques le Conquérant constitue un véritable outil pédagogique à l'usage de tous les passionnés d'histoire, grâce à son iconographie très riche, mais aussi grâce à ses commentaires et à ses éclairages sur un texte revisité dans le but précisément de le rendre accessible au plus grand nombre. Qui fut donc Jacques Ier le Conquérant, ce roi méconnu du XIIIe siècle, né il y a très exactement 800 ans? C'est ce que je vous propose de découvrir au cours de cette émission. Robert Vinas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien professeur d'histoire, passionné par l'histoire de votre région. Je vous avais reçu à l'occasion de la sortie de votre ouvrage « La conquête de Majorque », un ouvrage coécrit avec votre épouse Agnès Vinas, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est agrégée de lettres, et vous venez de publier, toujours dans la même collection et toujours avec elle, un ouvrage donc magnifique, un ouvrage où l'on retrouve, comme pour la conquête de Majorque, un bel équilibre entre un texte remanié, commenté et des images. Il s'agit donc du Livre des Fées de Jacques le Conquérant. Et ma première question, finalement, elle concerne le caractère inédit d'une telle publication. Est-ce que il était courant au Moyen-Âge pour un roi, pour un prince, d'écrire de la sorte ses mémoires?
Non, c'est véritablement un témoignage exceptionnel. D'abord, parce que nous n'en avons pas d'autres exemples dans les littératures occidentales. On pourrait rechercher, si on voulait savoir où le roi a pris son idée, peut-être les chroniques des souverains arabes de la péninsule, mais ça ne donnerait pas du tout le même genre de texte. Mais en fait, il faut d'abord dire que ce texte n'a jamais été écrit par le roi. Et qu'aujourd'hui encore, nous nous posons des questions sans réponse et qui resteront certainement longtemps sans réponse sur la façon dont ce texte est arrivé jusqu'à nous.
Parce que vous le dites, pendant il y a eu plus d'un siècle de débats pour savoir si, effectivement, Jacques le Conquérant en était l'auteur.
C'est cela, c'est cela. Les érudits catalans, en mal de chansons de gestes, ont voulu y voir pendant longtemps, trop longtemps, des chansons de gestes prosifiées. Et il faisait fausse route complètement, mais disons que cette tendance a été longue et ses rêves ont été longs à se dissiper. Il a fallu attendre les dernières années du XXe siècle pour que deux érudits et deux savants, pourrait-on dire, le professeur italien Stefano Asperti et le professeur catalan qui enseigne à l'université de Tarragone maintenant, José María Pujol, examinent ce texte de la manière la plus simple en essayant de savoir de quel type de texte il s'agissait. Et ils sont arrivés tous les deux à la même conclusion, la même à laquelle nous sommes arrivés, nous, par d'autres chemins. C'est un texte à forte prédominance orale. Et où le rôle du roi est indéniable. Ce qui nous a fait penser à tous les trois, à 15 ou 20 ans d'intervalle, que ce texte avait été certainement dicté par le roi, pris en note, et ensuite certainement oublié pendant quelques dizaines d'années dans les archives de la royauté, avant que toutes ces notes ne soient réunies et fassent l'objet, 70 ou 80 ans après ces séances, d'un manuscrit, un manuscrit qui a été conservé, écrit et conservé à l'abbaye de Poblet en Catalogne, et qu'on peut encore consulter, mais de loin, à la bibliothèque de l'Université de Barcelone.
Alors, à vous lire, hein, en tous les cas, à lire le Livre des Fées, on sent que ça ne peut venir hein, que de Jacques Ier le Conquérant. Et dès les premières pages, il y a le regard de Dieu, hein, puisque le texte commence par une réflexion sur la foi et les œuvres tirées de l'Évangile, donc de l'Épître de Saint Jacques. C'est une manière de placer son règne sous le regard de Dieu.
Je pense que oui. En fait, on ne sait pas si ce prologue auquel vous faites allusion a été dit, dicté ou écrit avant de commencer le texte ou après. Aujourd'hui encore, les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord. Nous avons tendance à penser que ce texte a été peut-être celui du prologue, rajouté
après.
Mais il n'en demeure pas moins qu'il donne l'idée, il donne la trame. C'est un texte qui s'adresse, bien sûr, non pas aux hommes, mais plutôt
au divin.
Au divin.
Oui, les temps médiévaux sont véritablement inscrits dans le divin.
C'est cela. Et Jaume, tout au long du Jaume ou Jacques, je dis le nom Jaume en catalan, de toute façon, les Montpellierins l'appelaient Jacme et les Arabes Jacme, et donc on peut nous, du moment qu'on est en France, l'appeler Jacques.
Alors, nous avons donc commémoré le 2 février dernier, 1208, le 800e anniversaire de sa naissance. Venons-en tout simplement à son histoire. Quelles sont ses origines?
Ses origines? Eh bien, il est le fils de Pierre II d'Aragon, roi d'Aragon, comte de Barcelone, qui est resté dans l'histoire peut-être un peu plus connue du sud de la France, comme celui qui a été tué à la bataille de Muret lorsqu'il s'est attaqué aux troupes de Simon de Montfort qui était venu d'Île-de-France avec ses barons pour lutter contre l'hérésie albigeoise. Et cette hérésie cathare étant plus ou moins soutenue par le comte de Toulouse, le comte de Toulouse étant allié du roi Pierre II, celui-ci s'est porté à son secours et il y a eu cette bataille de Muret où il a été tué et qui est, disons, le grand deuil du Midi par rapport au Nord dans l'histoire du Moyen-Âge. Le grand deuil, c'est-à-dire la fin de ce grand rêve d'un pouvoir du Midi qui s'opposerait à celui venu du Nord et des croisés autour de Simon de Montfort. Je crois que de Paris, on ne se rend pas compte de ce drame qu'a été la bataille de Muret pour toutes les composantes méridionales, Catalogne comprise.
Alors, donc,
c'est son père.
Oui, donc c'est son père, et son père, il ne le connaît pas, il meurt très tôt, il meurt en 1213, alors que notre héros, Jacques, lui, n'a que 4 ans.
C'est cela. Et sa mère, c'est Marie de Montpellier, fille du seigneur Guillaume VIII de Montpellier, et petite fille d'un prince de Constantinople, d'un Byzantin.
Alors, on sent à la lecture du livre qu'il y a un grand respect pour les aïeux, pour les parents.
Surtout pour la mère, parce que je trouve que de son père, il en parle peu et pas forcément très bien. En fait, ce qu'il veut nous montrer, bon, sa mère, bien sûr, il adore sa mère qui l'a protégée, sa mère qui est allée à Rome pour plaider sa cause. En plaidant sa cause personnelle, elle plaidait la cause de son fils. Sa mère qui a réussi à obtenir du pape Innocent III que Jaume, le petit Jaume, soit l'héritier de Montpellier et que le mariage de Marie de Montpellier avec Pierre ne soit pas annulé. Ce qui a en fait permis ensuite à Jaume d'être le seul héritier réel et légitime du roi Pierre II. Par contre, le roi Pierre, il n'est pas forcément bien traité. Grand chevalier, Mais homme à femme, c'est dit exactement de cette manière dans le livre.
Et oui, mais on verra que Jacques a un peu les mêmes défauts.
Et oui, mais au départ, c'est son père qui est l'homme à femme.
Alors, absence du père, qui va assurer son éducation?
Ah, alors, il se retrouve, il avait été confié à Simon de Montfort, autant au Pierre. Et donc, Simon de Montfort était ami, il devait épouser la petite fille de Simon de Montfort, la fille, la toute petite, de Simon de Montfort. Et il avait été confié à Simon de Montfort, qu'il avait gardé à Carcassonne pour l'élever. Mais lorsque les deux se sont fait la guerre, disons qu'il est devenu otage de Simon de Montfort. Et ce n'est que l'intervention du pape Innocent III qui l'a fait libérer. Il l'a fait libérer et donc Simon de Montfort a été obligé de le rendre aux barons catalans et aragonais. Ça s'est passé à Narbonne. Et après, ces grands barons, n'arrivant pas à se mettre d'accord sur la manière de concevoir l'éducation du petit roi, l'ont confié au maître du temple en Catalogne et Aragon, Guillaume de Montrodon, qui l'a élevé au château de Montsó, là-bas, aux limites de la Catalogne et de l'Aragon.
Est-ce que, j'allais dire un peu à l'instar d'un Louis XIV bien plus tard, ce jeune roi vit dans l'agitation politique, cette agitation politique fut aussi importante, par exemple, qu'une agitation politique au moment de la Fronde.
Oh oui. Parce que on a voulu le mettre chez les Templiers pour lui éviter cette agitation politique. Mais il n'a pas pu rester longtemps chez les Templiers. Il a été obligé de quitter le château de Montsó. Et quittant le château de Montsó, il a été pris au milieu des troubles que provoquait justement son jeune âge. Troubles provoqués par ses oncles, qui voulaient le pouvoir, et qui avaient formé des partis politiques, des bandes qui n'arrêtaient pas de lutter entre elles, qui essayaient chacune d'attirer le roi dans leur camp. Et alors là, il a vécu des moments extrêmement difficiles. Ce qui fait que ses conseillers, parce qu'il en avait quelques-uns, en particulier son oncle, l'archevêque de Tarragone, Asparag de la Barca, ses conseillers ont pensé qu'il fallait le marier très tôt, et le marier avec une princesse, disons, représentante d'un état puissant qui puisse le protéger. Et son premier mariage a été un mariage précoce.
Il a 13 ans.
Avec une princesse de Castille, la fille du roi de Castille, Léonore.
Mariage et adoubement, quasiment en même temps.
En même temps. À 13 ans. Il raconte ça très bien, d'ailleurs.
Oui.
Il nous dit même une anecdote. Il a dit même pendant un an, je suis resté avec ma femme sans faire ce que les hommes font habituellement avec leurs femmes.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, vraiment, j'évoque à dessein la Fronde, parce que la question des barons et de l'entourage royal est une question qui dure tout le long de son existence.
Tout le long de son existence. En fait, si l'on veut résumer en quelque sorte le livre des faits, il y a deux grands combats. Il y a le combat de la reconquête contre les Sarrasins, et le deuxième combat, c'est le combat du roi contre ses barons pour assurer le pouvoir royal.
Qui montre que l'absolutisme à cette époque n'a strictement aucun sens.
Oh non.
Voilà.
Un roi du Moyen-Âge est loin d'avoir le pouvoir de Louis XIV.
Je reçois Robert Vinas, qui a publié, pour notre plus grand bonheur, le Livre des Faits de Jacques le Conquérant, un ouvrage édité par la Société agricole et scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales. Nous nous retrouvons dans un instant.
Le philosophe René Girard de l'Académie française poursuit sa réflexion sur la violence qui, échappant à tout contrôle, menace la planète. Il vient de publier un nouveau livre, Achevé Clausewitz. Retrouvez-le sur Canal Académie.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à Jacques le Conquérant, au Livre des Faits, le Livre des Faits qui, pour la première fois, est publié en français. Il s'agit de ce roi de ce XIIIe siècle, Jacques le Conquérant, qui dominait à la fois la Catalogne, le pays valencien, l'Aragon, originaire de Montpellier. Je ne sais pas si nous l'avons dit, mais il est né à Montpellier, et la capitale du royaume de Majorque, nous ne le répéterons jamais assez, était bien à Perpignan. Donc, en France, c'était un royaume, nous le disions avant cette émission, c'était un royaume entre deux nations telles qu'on les conçoit aujourd'hui et finalement, on a du mal à se représenter ces rois qui possédaient tant de terres, et c'était un roi, comme vous le dites, qui était aussi important que Saint-Louis ou bien Frédéric Hohenstaufen. Alors, le livre des Fées est un livre donc est écrit, comme nous le disions tout à l'heure, en tous les cas dicté par Jacques Ier le Conquérant, et bien évidemment, il a un côté... j'allais dire un peu partial. Il oublie à dessein certaines choses. Par exemple, en 1225, il y a cette tentative contre Peñíscola, qui est occupée par les musulmans, avant donc la conquête de Majorque, et c'est une chose dont il parle peu.
Il l'oublie complètement. Nous savons que ça a existé parce qu'il y a d'autres chroniques qui nous ont parlé des faits de cette époque, en particulier la chronique de Bernard d'Esclot, qui est un peu postérieure au règne de Jacques Ier, qui a bien développé ce thème-là. Mais Jacques, lui, ne s'intéresse qu'à ses hauts faits. Ça ne l'intéresse pas, il n'en parle pas.
Alors, le premier haut fait, véritablement, c'est la conquête de Majorque. Alors, la conquête de Majorque, nous allons renvoyer nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée ensemble hein, sur le livre, la conquête de Majorque. Un mot cependant, chronologiquement, elle a lieu en 1228. Et 1228, le roi n'a que 20 ans.
Il n'a que 20 ans, il y pense en 1228, il réunit les cortes, c'est-à-dire ces assemblées particulières de la Catalogne, où on retrouvait l'Église, les grands barons et les représentants des grandes villes. Ça se fait à la Noël 1228 à Barcelone, et là, il arrive à les convaincre tous qu'il faut aller à la conquête de Majorque. Et l'année 1229 se passe à la préparation de cette conquête de Majorque. L'expédition démarre début septembre, les bateaux partent de la région de Tarragone au début septembre 1229, et après un siège très long et très difficile qui va durer jusqu'à la fin de l'année, ça se termine par l'assaut de la ville de Medina Mallorca, dont la capitale de l'île de Majorque, le 31 décembre 1229, qui est la fête médiévale la plus ancienne et celle qui, depuis ce 31 décembre 1229, est célébrée tous les ans à Majorque, sous le nom de Fête de l'Étendard.
Alors, juste après cette conquête de Majorque, se place la campagne de Valence. Hein. Vous le disiez avant notre première pause, le règne est marqué à la fois par les conflits récurrents avec les barons, mais aussi par la conquête, hein, par les faits militaires, hein, et ce sont les hauts faits. Et dans les hauts faits, il y a la campagne de Valence, qui, tout comme pour Majorque, est au fond une œuvre de reconquête.
C'est une œuvre de reconquête et au fond, je crois que le roi n'a pas le choix parce que déjà, surtout les Aragonais avaient pris l'habitude de faire des descentes, des sortes de razzia en pays valencien. Ils étaient tournés déjà vers cette conquête et au fond, je crois que le roi a utilisé toutes ses énergies qu'il a voulu utiliser parce qu'il pensait qu'elles étaient mieux utilisées à reconquérir des terres sur les Sarrasins qu'à lutter contre lui ou entre eux. Et il les entraînait vers cette conquête du pays valencien. Beaucoup plus longue, parce que le territoire est beaucoup plus grand que Majorque, beaucoup plus riche, et qu'il y a là une véritable opposition militaire ces faits guerriers.
Alors, avant de venir à la conquête proprement dite, je voudrais tout de même m'arrêter, parce que ce qu'il y a d'étonnant, c'est dès les premières lignes du livre des faits sur la question de la conquête de Valence, on a l'impression que le roi annonce de manière impromptue cette conquête, comme ça, du jour au lendemain, alors que ça rentre dans une logique d'expansion.
Ça rentre dans une logique d'expansion militaire, économique, religieuse, tout ça, ça a le label de croisade, bien sûr. On demande la permission au pape qui la donne. Mais ce qui est curieux, c'est cette espèce de procédé qui est le même que pour Majorque. À Majorque, ça s'était décidé, paraît-il, au cours d'un dîner tenu d'une manière absolument impromptue à Tarragone, où se trouvaient la plupart des grands barons. Et là, pour Valence, c'est le même procédé narratif et qui est utilisé. Ça se passe dans la ville aragonaise d'Alcañiz, sur une terrasse, un soir, il était en train de discuter avec l'un des grands barons, Blasco de Alagón, et avec le grand maître des hospitaliers. Et alors, la question s'est posée de la même manière. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas conquérir Valence? Ah, lui disait-il, mais ce sera beaucoup plus difficile. Voyons quand même comment nous pourrions faire. C'est donc le même procédé qui est utilisé par le roi.
Alors, le roi, bien évidemment, se place en premier. Il se fait aider de princes. Comment au fond, se passe dans la forme de cette conquête, dans la mesure où, bon, il reçoit cette aide des princes et il se doit de récompenser ces princes dans la conquête.
Oui, mais cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme un Majorque. Un Majorque qui avait eu un véritable contrat signé, il avait produit une charte disant, voilà, vous serez récompensé au prorata des forces militaires que vous aurez amenées. Cette fois-ci, c'est tellement évident que ce sera comme ça qu'on n'a pas besoin de le faire. Et puis on sait que cette fois-ci, personne ne peut s'engager sur une campagne qui se terminerait par la conquête de Valence, parce qu'on sait très bien que le morceau est trop gros et qu'il y faudra beaucoup plus de temps.
Est-ce que cela signifie qu'il y a une mutation du pouvoir royal ?
Il y a d'abord la conscience de la difficulté, et ensuite le fait que le roi ne veut pas se sentir complètement lié par ses promesses. Parce qu'il faut quand même le dire, la conquête de Majorque, c'est un succès militaire, mais sur le plan humain, c'est l'un des plus grands carnages du Moyen-Âge. Or, là, il n'est pas possible de concevoir une pareille fin pour la conquête de Valence. Parce que Valence est peuplée, bien peuplée, largement peuplée. Valence est riche, Valence peut se défendre, et il n'est pas question de supprimer la population valencienne. D'ailleurs, la suite nous le montrera. La suite, après la conquête, c'est le combat des uns et des autres pour ne pas expulser l'élément sarrasin, parce que c'est le travail de l'élément sarrasin qui assure la prospérité du pays valencien, donc qui assure la prospérité de ceux qui, après la répartition, toucheront les terres et les richesses. On ne peut pas du tout envisager ça. Et puis, le roi tient à garder la main jusqu'au bout. C'est pourquoi il ne fera les choses que peu à peu, et même la répartition de Valence, lorsque, après la conquête, elle se fera selon ses instructions à lui.
Alors, c'est ce que vous présentez justement par rapport aux musulmans, par rapport aux Olmayades, c'est que la frontière avec l'ennemi même est loin d'être une évidence politique. La frontière est complexe, je vous cite, elle est mouvante, elle est transgressée. Il y a des zones de guerre, mais il y a des zones de contact et des zones d'échange.
En fait, la supériorité militaire des chrétiens est vite démontrée. À partir du moment où le roi Jacques réussit à faire une tête de pont au putsch, c'est une petite ville qui se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord de Valence. Il monte là une tête de pont que le roi sarrasin, le roi almohade de Valence, Zayan, ne peut pas reprendre. Et à partir du moment où Zayan est incapable de reprendre cette tête de pont située si près de la grande ville de Valence, l'affaire est entendue sur le plan militaire. Désormais, les sarrasins se réfugient dans les villes et, disons que le travail des chrétiens, ce sera de conquérir les villes, les châteaux, comme on les appelle, les unes après les autres. Mais il n'y aura plus, pratiquement plus, de batailles rangées en plein champ. Et c'est fini. Donc on sait que les choses ne peuvent se terminer que de cette manière-là, par la conquête progressive de ces châteaux, de ces villes, les unes après les autres. Et l'exemple le plus marquant, c'est celui de la capitale, de la grande ville de Valence, qui est à l'époque l'un des grands ports du Moyen-Âge, l'une des villes les plus riches de la Méditerranée occidentale. Et là, eh bien, le roi prend son temps, une fois installé dans sa tête de pont du putsch, il prend son temps, et il appelle ses gens, et il appelle beaucoup plus que ses gens. Parce que la conquête de Valence, c'est une affaire, ce n'est pas seulement une affaire de l'Aragon, des Aragonais ou des Catalans, c'est l'affaire de tout le Midi français actuel. C'est l'affaire des Roussillonnais, des Languedociens, des Montpellierins, des Marseillais. Le baron qui amène le plus de monde à la conquête de Valence, c'est l'archevêque de Narbonne, qui arrive avec 100 chevaliers et 2 ou 3 000 combattants à pied. Donc, c'est l'une des plus grosses concentrations militaires du Moyen-Âge. On entoure Valence, le siège se resserre, mais ça ne se termine pas comme à Majorque.
Alors, la prise de Valence, vous la présentez, hein, il faut attendre 1238, c'est-à-dire 6 ans. Donc, oui, après vous présentez d'ailleurs les différentes étapes d'une œuvre, le Livre des Faits, qui est au fond une œuvre chronologique, c'est bien cela ?
Oui, globalement, c'est chronologique, avec quelques petites libertés que prend le roi de temps en temps, mais finalement, il n'y en a pas beaucoup de liberté. À part l'inversion des deuxième et troisième voyages de Majorque, il n'y a que des petites libertés avec la chronologie. Globalement, on va du début à la fin du règne, de la vie.
Il n'avait pas de chapitre quand même à cette époque-là.
On ne sait pas comment ça s'est produit. On ne sait pas si c'est si ce que nous avons découpé, si notre découpage, d'ailleurs notre découpage est différent de celui de tous les autres.
Oui.
Nous essayons de trouver des unités narratives. Mais ce n'était peut-être pas le souci du roi. Peut-être que le roi n'a pas découpé ça comme nous. Peut-être que quand nous mettons un chapitre, lui, il en mettait deux ou trois. En fait, on ne sait pas comment ça est arrivé jusqu'à nous, puisque l'origine, ces fameuses feuilles, ces feuillets épars, ont disparu. Ont disparu. Ceux qui ont servi à la confection du premier manuscrit écrit, tout ça a disparu. Nous ne savons pas.
Alors, j'en reviens à la conquête de Valence, je ferme la parenthèse sur la chronologie de l'œuvre. D'ailleurs, au cours de la conquête de Valence, il y a un blessé, enfin, il y a des milliers de blessés et des milliers de morts sûrement, mais Jacques lui-même reçoit une flèche sur le visage.
Oui.
Et on le voit très clairement dans votre ouvrage, qui est richement illustré. On voit une photographie du crâne de Jacques et on voit très très bien l'entaille près de l'œil gauche, si mes souvenirs sont
bons. C'est
cela. Voilà. Et ce qui vous permet d'ailleurs d'aborder la question de la médecine au temps médiévaux.
Oui, d'autant plus que nous avons la chance de parler aussi de Montpellier. Montpellier étant la faculté de médecine les plus anciennes d'Europe, et Jacques ayant lui-même favorisé les médecins de Montpellier, on conserve encore à la faculté de médecine une charte dans laquelle il dit que personne ne pourra enseigner la médecine là-bas s'il n'a été étudiant et reçu docteur à Montpellier. Et tout cela, dit-il, pour protéger la santé du public. Donc oui, vous voulez parler de cette...
Alors oui, donc l'état de la médecine, on s'imagine qu'une flèche près de l'œil, ça constitue quand même un accident grave, une blessure grave. Comment ça se passait à cette époque-là?
La médecine sur le champ de bataille, vous savez, pense que si on était gravement blessé, elle ne laissait pas beaucoup de possibilités. Il faut donc croire que notre roi Jacques n'a pas été très gravement blessé, il nous le dit lui-même, il arrache cette flèche. Et après, ça se traduit par ses yeux qui gonflent, sa tête qui gonfle.
Alors, je vais me permettre de le lire, parce que c'est quand même extraordinaire. À travers le casque de cuir et la cotte de maille, la flèche m'atteignit à la tête près du front. Mais grâce à Dieu, elle ne traversa pas la tête. La pointe ressortit au beau milieu du visage. Et moi, de colère, je tirais tellement dessus qu'elle se cassa. Le sang me ruisselait sur le visage de haut en bas. Je l'essuyais avec la cape de soie que je portais et revins en riant, pour éviter que l'armée ne perdît courage. J'entrai dans une tente où j'avais coutume de me reposer. Ma tête et mes yeux se mirent à enfler au point que je ne pus rien voir avec l'œil du côté blessé pendant 4 ou 5 jours. Quand mon visage eut désenflé, je chevauchai dans tout le camp pour éviter que les hommes ne se démoralisent. Il a encore une fois, il se met en scène.
Bien sûr, il n'arrête pas de se mettre en scène. Et c'est ce qui nous fait dire à mon épouse Agnès et à moi-même, que d'abord, ça devait être quelqu'un qui devait avoir un charisme personnel assez extraordinaire, et que c'était un conteur né, et bien sûr, comme tous les conteurs, un grand manipulateur. Il nous en donne la preuve plusieurs fois. Cette photo, vous savez, que vous voyez, c'est un miracle, cette photo.
Alors, la photo évidemment,
du crâne.
Une photo du crâne de la tête de la momie de Jacques Ier, qui est une photo qui date de
1856.
De 1856.
C'est... vous savez, en Espagne, il s'est passé quelque chose en 1835, quelque chose qui peut correspondre un petit peu à ce qui s'est passé chez nous pendant la Révolution. Il y a eu les exclaustrations, on a pris les biens du clergé, et ça s'est traduit par des pillages quelquefois.
Oui.
Et donc là, les momies royales en 1835, qui étaient à l'abbaye de Poblette, les tombes ont été violées, les momies ont été débarrassées de tout ce qui pouvait avoir de la valeur et jeter dans un coin. Et c'est le curé du village voisin qui les a recueillis. Et ensuite, on les a envoyés à Tarragone. On a consacré un chapitre là-dessus, d'ailleurs, sur le destin posthume du roi. Et cette photo a été faite en 1856. Et d'ailleurs, c'est avec cette photo qu'on a pu déterminer qu'il s'agissait de la momie du roi. Puisqu'on avait le texte, déjà, à l'époque, bien sûr.
Grâce à la trace de la flèche,
là, sur l'œil gauche.
C'est anecdotique, mais c'est une excellente anecdote. Oui. J'en reviens à la prise de Valence. Elle est très importante. Elle dépasse en importance celle de Majorque. C'est ce que nous allons voir Robert Vinas après cette deuxième pause. Thank you. Un jour dans l'histoire reçoit Robert Vinas, auteur avec Agnès Vinas du livre des faits de Jacques le Conquérant. Il s'agit de la retranscription du texte de Jacques le Conquérant, une retranscription qui est réalisée au fond pour la rendre la plus accessible possible grâce à un texte revu et corrigé avec une iconographie très riche. Alors nous en étions à cette prise de Valence qui est très importante dans la chrétienté. C'est un retentissement incroyable.
Oui, d'ailleurs, Jacques a reçu les félicitations des plus grands princes d'Occident et surtout de la papauté. Et jamais sa gloire n'a été aussi grande qu'à partir de la conquête de Valence. Mais cette conquête de Valence, il l'a menée d'une manière complètement différente. La prise de Valence, qui était pourtant une énorme cité, s'est faite presque sans perte humaine. Ça a été un blocus de plus en plus serré, tellement serré qu'à partir d'un certain moment, ceux qui étaient à l'intérieur n'ont plus rien eu à manger. Ils n'ont pas pu recevoir les secours de l'émir de Tunis qui avait envoyé des bateaux. Ces bateaux ne sont pas passés, Jacques le raconte très bien dans son livre, et à un moment donné, ceux qui étaient à l'intérieur ont dû se résoudre à négocier. Mais le roi a négocié en cachette. Il a négocié en cachette, voulant garder la main, voulant éviter l'assaut brutal comme à Majorque. Il a négocié en cachette en mettant dans le secret une seule personne. Son épouse, la reine Yolande de Hongrie, sa deuxième épouse, c'est elle qui devient le personnage politique important qui participe aux négociations.
Présentez d'ailleurs longuement.
On la présente longuement, parce que c'était un personnage extrêmement important, extrêmement intéressant, un personnage de femme, mais de femme de pouvoir, qui finalement a réussi à imposer donc son charisme personnel, a gagné la confiance du roi, qui lui a confié des missions politiques. Même au-delà de la conquête de Valence.
Oui. Ce personnage est vraiment fascinant parce que c'est à la fois la conseillère du prince, mais le missi dominici, l'envoyé du maître. Vous citez une lettre d'Al-Azraq. Donc Al-Azraq était un chef militaire musulman et qui s'est révolté contre l'occupation. Et il y a une lettre qui est extraordinaire. Donc je cite cette lettre d'Al-Azraq qui s'adresse donc à une femme. Et en tant que musulman, on est vraiment étonné du ton déférent qu'il utilise. Il dit « À la sultane honorable, aidée de Dieu, victorieuse, universelle, bénie, la reine, épouse de notre Seigneur, le sultan, aidée de Dieu, victorieux lui aussi, roi de la chrétienté et de Sark al-Andalus, de votre serviteur qui baise vos mains bénies, Muhammad ou Daïl, connu sous le nom d'Al-Azraq. J'ai chargé mon homme de confiance, etc., etc. » On est vraiment dans un autre monde, un ton vraiment différent. Et donc, vous reproduisez effectivement cette lettre, non seulement en français, mais en photo également. Nous avons l'original, en tous les cas, une copie de l'original à la gauche du texte français. Alors, j'en reviens donc à cette conquête de Valence, puisqu'elle est vraiment majeure dans la vie du roi Jacques. Il n'y a pas d'intégration brutale, mais une volonté de préserver une autonomie politique qui n'était pas vraiment le cas, encore une fois, avec le royaume de Majorque, où le roi plus jeune, finalement, a visiblement moins bien fait les choses qu'il ne les a faites à Valence.
On est dans un autre registre et on est dans un autre espace, beaucoup, beaucoup plus vaste. Donc, la conquête de Valence, elle se fait par la négociation. Blocus, négociation, on dit aux Sarrasins, vous avez 4 jours pour évacuer avec tout ce que vous pouvez porter avec vous. Ceux qui resteront se retrouveront en face de leur nouveau patron. Et ils devront s'arranger avec eux. Et on procède ensuite, comme on a fait à Majorque, aux répartitions. Oh, le roi s'amuse un petit peu, parce que les grands barons veulent faire les répartitions eux-mêmes, et puis ils n'y arrivent pas, alors ils sont obligés de laisser faire des barons plus petits, moins importants, mais qui ont la confiance du roi, et finalement les répartitions se font. Mais ce dont ne parle pas le roi Jacques, c'est qu'il donne à cette région de Valence des lois spéciales. Les force en catalan, c'est fueros en espagnol, donne des coutumes spéciales. Et en fait, par ces forces de Valence, il crée un royaume différent qu'il n'agrège ni à la Catalogne, ni à l'Aragon. Et aujourd'hui, vous savez, on constate une chose. Quand on regarde l'Espagne des autonomies, ben cette Espagne des autonomies, elle correspond au royaume qu'a créé le roi Jacques. Mmh. Puisque vous avez l'Aragon qui est autonome, la Catalogne qui est autonome, les Baléares qui sont autonomes, et la communauté valencienne qui est autonome. Il est le créateur de cette partie de l'Espagne des autonomies.
Mmh. Alors, cette œuvre de légiste est très importante parce que il existe une justice du roi. Et d'ailleurs, au fond, on sent que Jacques, peut-être même bien avant que Philippe le Bel, qui intervient plusieurs dizaines d'années plus tard, eh bien, met en avant les légistes.
Je pense que on peut pas dire avant Philippe le Bel parce que la monarchie française a quand même déjà, depuis le début du XIIIe siècle, depuis Philippe Auguste, elle a déjà une tradition du recours aux légistes. Mais là, il est vrai que Jacques, dès le début, dès les affaires du comté d'Urgeil, amène à côté de lui des légistes. Des gens qui sont formés à Bologne et qui l'accompagnent partout. Et il s'en explique d'ailleurs auprès des grands barons aragonais. Il s'en explique. Il dit, comment voulez-vous que je gouverne un pays qui a tant de coutumes différentes? Vous avez les vôtres en Aragon. Les Catalans ont les usages de Barcelone. J'ai donné des franchises à Majorque, j'ai donné des droits aux Valenciens. Si je ne suis pas accompagné de légistes qui connaissent un petit peu tout cela, jamais je ne pourrai gouverner. Mmh. Mais ces grands barons, surtout les Aragonais, ne le prennent pas très bien.
Il n'y a pas de volonté unitaire de la part de Jacques?
Non, il n'y a pas de volonté unitaire. Il n'y a pas de volonté unitaire. Il y a le patrimoine qu'il a reçu, Catalogne, Aragon, Montpellier, et puis il y a les royaumes qu'il y ajoute par la conquête, Majorque et Valence. Chaque entité gardant ses coutumes ou acquérant des coutumes que lui donne le roi Jacques. La volonté unitaire n'existe pas. Il a chez lui l'idée que cela c'est un patrimoine qu'il gère, il le gère en tant qu'héritier ou en tant que conquérant. C'est le reproche qu'on lui fera beaucoup plus tard. Les historiens, surtout les historiens catalans contemporains, modernes et contemporains, lui reprocheront d'avoir divisé ses royaumes. Mais en fait, il n'a jamais eu l'intention de donner tout à un seul et même fils. Jamais, jamais, jamais. Et au contraire, cette division en royaumes différents lui permet, selon le nombre d'héritiers qu'il a à doter, de doter chacun au fur et à mesure qu'il acquiert de nouvelles terres.
Alors, après Valence, il y a une troisième grande étape militaire dans le règne, en tous les cas présentée dans le livre des faits. Il y a d'autres étapes militaires, mais qui, elles, ne sont pas présentées. Nous en reparlerons dans le livre des faits. En tous les cas, la troisième, c'est Murcie. Et Murcie, cette fois, il s'agit d'une aide à un personnage qui, lui aussi, est très important à cette époque. Il s'agit du roi de Castille, Alphonse X, et malgré une rivalité entre les deux, eh bien finalement Jacques viendra à l'aide du roi de Castille pour reconquérir les terres perdues.
Oui, rivalité, elle existe. Elle existe dès le départ parce qu'à un moment donné, les deux reconquêtes, la catalano-aragonaise et la castillane, se rencontrent. Elles se rencontrent au sud de Valence, aux environs de Murcie. Et il y a eu un épisode que le roi, un épisode tendu, que le roi raconte, et il a fallu à un moment donné définir une limite. La limite, c'est le traité d'Almisra. Pendant ces négociations, la reine Yolande aura un rôle important, parce qu'elle aussi, elle amènera la paix un petit peu entre Jacques et celui qui était en train de devenir son gendre, l'époux de sa fille aînée, qui s'appelait aussi Yolande, dont Alphonse X de Castille. Alphonse X, le sage ou le savant. Savant, ça ne souffre aucune discussion. Sage, les historiens espagnols n'en sont pas persuadés eux-mêmes.
Alors, là encore une fois, plus d'intelligence au fond que, je ne vais pas dire la barbarie à Majorque, mais la reconquête militaire et uniquement militaire à Majorque, là, cette fois, il utilise à la fois l'arme militaire et l'arme aussi de la diplomatie, et la reconquête de Murcie se fait grâce aux deux.
Oui, comme il a reconquis les terres valenciennes, il va reconquérir Murcie. Il va reconquérir Murcie pour le roi de Castille. Il l'explique d'ailleurs. Il dit, si je n'aide pas le roi de Castille à reconquérir Murcie alors qu'il me le demande et que j'en ai la force, il deviendra mon ennemi. Et si il le fait sans moi, il sera encore plus mon ennemi. Et s'il n'y arrive pas, eh bien c'est moi qui serai menacé, c'est nous qui serons menacés par les Sarrasins du Sud et qui vont essayer de reconquérir ce que nous leur avons pris. Donc, il nous explique tout ça d'une manière extrêmement claire. Hein. Et ensuite, donc, il va à la reconquête de Murcie. Toujours, c'est toujours les deux fers au feu. La force disponible, mais qu'on n'emploie que quand on ne peut pas faire autrement, et la négociation. Je crois que Jacques a beaucoup appris de ses adversaires. Mmh. Il a beaucoup appris de ses adversaires, il a parfaitement compris la mentalité des Sarrasins, hein, et il présente toujours les deux éventualités. La force, la négociation. Si vous négociez, vous obtiendrez beaucoup de moi. Vous garderez votre foi, vos lois, et aussi peut-être vos terres. Et c'est comme cela que se font les conquêtes de Jacques, jusqu'aux grandes révoltes des Sarrasins de la fin de son règne, qui là demanderont des traitements beaucoup plus militaires.
Je citais tout à l'heure la lettre d'Al-Azraq, oui. Elle est justement étonnante pour ça. C'est un homme qui est en révolte, et malgré cela, il écrit avec beaucoup de déférence à une personne qui, au fond, est son maître, et il dit que cette personne est son maître.
Oui, Jacques est le souverain, mais pas le souverain incontesté. Et Al-Azraq a l'habitude de traiter avec les souverains chrétiens. Il a déjà eu comme appui Alphonse X de Castille, alors qu'il n'était encore qu'infant, que prince héritier. Il a essayé d'obtenir d'Alphonse X de Castille des protections, des appuis. Et maintenant, il essaie avec une personne dont il sait qu'elle a de l'influence sur le roi. Il essaie avec sa propre épouse. Lui aussi a parfaitement compris le fonctionnement des chrétiens. Nous sommes à la frontière de deux mondes, mais de deux mondes qui s'interpénètrent. La frontière, elle n'est pas matérialisée, ce n'est pas vrai. Il y a des dizaines et des dizaines de communautés musulmanes qui vivent dans les terres qui sont de la conquête, soit du roi d'Aragon, soit du roi de Castille, et qui sont là et qui sont les sujets de ces rois. Aujourd'hui, on a de la peine à imaginer une chose pareille. Et pendant longtemps, ça fonctionne. Pendant longtemps, ça fonctionne, parce que c'est de l'intérêt de tous. Parce que pour les Sarrasins, quitter ces terres et abandonner tout, pour aller où? Pour aller où? Tant que la vie est vivable sous les rois chrétiens, on reste sous les rois chrétiens. Et pour les rois chrétiens, repeupler ces terres, on n'a pas les hommes suffisants pour repeupler. Et on n'a pas les hommes suffisants pour repeupler. Donc, si on fait partir les Sarrasins, plus rien ne sera cultivé, plus de richesses produites, et les impôts s'en ressentiront, et les grands barons seront pauvres, et le roi aussi. Donc il y a une espèce d'équilibre qui se produit à un moment donné. Hein. On n'ose plus, malgré les exhortations des papes, expulser plus de Sarrasins, parce que ce sont les Sarrasins qui, par leur travail, produisent de la richesse, parce qu'on n'a pas assez de chrétiens pour mettre à la place et les remplacer immédiatement. Et les papes font pression.
Je disais tout à l'heure que il y avait trois grands faits militaires, Majorque, Valence, puis Murcie. Alors, il y a d'autres faits militaires, mais notre cher Jacques le Conquérant les cache. Et il y a un grand absent du livre des faits que nous connaissons bien, c'est Saint-Louis. C'est ce que nous allons voir, si vous le voulez bien, Robert Vinas, après cette toute dernière pause.
Il est né en Grèce, mais il vit entre Athènes et Paris. Il a reçu en novembre 2007 le Grand Prix du roman décerné par l'Académie française et il est reçu dans le studio de Canal Académie par Elisabeth Antebi. Vassili Alexakis, le plus grec des écrivains français, dans l'émission Au fil des pages sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Jacques le Conquérant, à son livre des faits, qui est un récit autobiographique, on peut le dire, et qui vient d'être publié. C'est une publication inédite par Robert et Agnès Vinas. L'une est agrégée de lettres, l'autre est historien. Je reçois Robert Vinas. Alors, avant la toute dernière pause, je disais qu'il y avait un absent du livre des faits. c'est Saint-Louis. Et pourtant, le règne de Jacques le Conquérant est marqué par la lutte avec le roi de France. Et au fond, c'est le roi de France qui, visiblement, a gagné la partie.
Oui, on peut le dire. Ça fait mal aux Catalans, mais il faut le dire. La monarchie française, depuis la croisade des Albigeois, a entrepris vers le midi une descente qui a été inarrêtable pour plusieurs raisons. D'abord parce que, à un certain moment, les rois de France, et en particulier Saint-Louis, oui, mais avant lui, sa mère, la régente Blanche de Castille, a accentué cette politique de descente vers le midi, et essayé de prendre des positions en Aquitaine et en Provence, profitant du fait que le roi Jacques était occupé avec ses conquêtes à Valence et ailleurs. En fait, si la monarchie française s'est implantée aussi facilement dans des terres qui ne lui étaient pas forcément destinées, bien au contraire, c'est parce que aussi il y a eu absence de la monarchie catalano-aragonaise occupée à la reconquête et à la conservation du royaume de Valence. Mais des frottements, il y en a eu. Ça ne veut pas dire que Jacques a abandonné de gaieté de cœur, en particulier la Provence. Je dis en particulier la Provence, où le dernier comte indépendant était quand même son cousin germain, Raymond Béranger V, celui qui avait été prisonnier, enfin éduqué avec lui, par les Templiers au château de Monceau. Donc la Provence était de la mouvance catalane. Et il se produit un événement en 1245, Raymond Béranger V meurt, et que va-t-il advenir de la Provence? Il n'a que des filles. Et c'est là que se produit l'événement qui est un grand changement. Jusqu'à maintenant, le favori de la papauté était Jacques. Et à partir de ce moment-là, tout change. Le favori de la papauté, ça va être Louis IX, le futur Saint-Louis. Et l'arbitrage des papes, ça a été la Provence reviendra à Charles d'Anjou, le frère de Louis IX, le frère de Saint-Louis, qui épousera l'héritière de Provence. Et c'est ça, c'est une date clé, 1245, la mort de Raymond Béranger V, la Provence revient au frère du roi de France, et là, c'est une victoire. D'autant que Louis IX a promis de se croiser, et qu'il va à la croisade, ce qui lui vaudra le soutien permanent de la papauté.
Alors justement, j'allais y venir. Il y a des points communs, bien évidemment, entre les règnes des deux personnages. Il y en a beaucoup, j'en citerai qu'un de seul. Vous le citez d'ailleurs, vous signalez la disputatio entre un juif et un clerc le 20 juin 1263, qui est non pas une imitation, mais finalement c'était dans l'air du temps de la fameuse disputatio de 1240 organisée par Saint-Louis. Mais il y a aussi cette question surtout de la croisade. Donc on sait comment se termine la croisade pour Saint-Louis. Pour Jacques, il y a quatre projets, il y a quatre projets bien distincts. Et il ne participe à aucun, finalement. Et à chaque fois, ce seront des échecs. Peut-être à l'exception du troisième, elle partira, mais elle partira sans lui.
Oui, parce que finalement, la rivalité se poursuit dans la croisade. Jacques essaie plusieurs fois. En 1260, il n'arrive pas à partir. Il nous raconte d'ailleurs une belle histoire. Je ne suis pas persuadé qu'il voulait réellement partir. En tout cas, le pape n'était pas d'accord pour qu'il parte en 1260. Parce que le fameux traité de Corbeil de 1258, qui règle pratiquement tous les problèmes entre Saint-Louis et lui, c'est-à-dire qu'il dit « la frontière sera sur les Corbières », c'est-à-dire à 30 km au nord de Perpignan, le Roussillon restant dans le domaine catalan. Et au-dessus, il n'y aura que Montpellier, qui est un héritage personnel de Jacques, un héritage familial. Ça semble régler tous les problèmes. Mais Jacques va entamer une contre-attaque. Il a entamé une contre-attaque, et la contre-attaque, ça a été de marier son fils, le prince héritier Pierre, à l'héritière du royaume de Sicile, Constance de Hohenstaufen. Et ça, c'est une chose qui ne pouvait plaire ni à la papauté, qui est ennemie des Hohenstaufen, parce que quand même la petite était la petite fille de Frédéric, c'est pas n'importe qui, et qui ne pouvait pas plaire non plus au roi de France, qui soutenait la papauté autant que la papauté soutenait le roi de France. Et même ce projet de mariage entre Pierre et Constance bloque même un moment le projet de mariage entre la fille de Jacques, Isabelle, et Philippe, le deuxième fils du roi de France, celui qui deviendra plus tard Philippe III, dit le Hardi. Mmh. Donc, il y a une très grosse crispation. Hein. Et si Jacques ne part pas à la croisade, c'est que le pape ne lui donne pas sa bénédiction pour partir. Mmh. Hein. Parce que là, c'est un conflit terrible. Il y a les lettres des papes de l'époque, des deux ou trois papes qui sont succédés, sont terribles pour Jacques. Il dit, toi qui as été le grand soutien de la chrétienté, maintenant tu te maries à la fille de l'antéchrist. C'est pas possible. Hein. Mais Jacques tiendra bon. Le mariage d'Isabelle d'Aragon avec Philippe, futur Philippe le Hardi, se fera. Et le mariage de Pierre avec Constance d'Hohenstaufen se fera aussi à Montpellier en 1262. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Parce que ça induit, quelques dizaines d'années plus tard, quand la Sicile aura été enlevé par les papes et donné à Charles d'Anjou, toujours le frère de Saint-Louis, eh bien, celui qui va lui disputer la Sicile, c'est Pierre, le fils de Jacques le Conquérant. D'où la suite que nous connaissons dans notre histoire de France, hein, les vêpres siciliennes. Qu'est-ce que c'est que les vêpres siciliennes? C'est la révolte des Siciliens contre les Angevins qui donne la couronne de Sicile à Pierre. Mmh. À Pierre, qui était l'époux de Constance. Et tout ça, ça se continuera par la conquête de la Méditerranée occidentale par les Catalans au XIVe siècle. Mais pour le moment, voilà comment se situe la rivalité entre Saint-Louis et Jacques. Mais elle continue la rivalité après ça même. Lorsque Jacques part pour cette croisade, qui part finalement en 1269, à l'automne 1269, et qui échoue piteusement à la suite d'une tempête sur les côtes du Languedoc,
Près d'Aigues-Mortes,
le port de Saint-Louis, oui. Jacques se replie sur Montpellier, où il est plutôt moyennement reçu. Les Montpelliérains voulant le renvoyer sur la mer, et lui, il ne veut plus. Mais pendant que ceci se passe, Saint-Louis, lui, a prévu sa croisade, qui part en 1270. C'est celle qui échoue à Tunis, et où Saint-Louis meurt. Donc cette rivalité, elle se poursuit au-delà, hein, au-delà, elle se poursuivra par les croisades, elle se poursuivra plus tard, donc, sur le problème de la Sicile. Alors, donc, c'est incompréhensible que le roi Jacques ne mentionne jamais le nom du roi de France. Le roi de France est oublié, le grand rival, avec qui on n'a jamais eu de guerre ouverte, mais avec qui on a été en opposition permanente. Il n'est jamais cité.
Alors, vous corrigez Jacques le Conquérant dans le livre des faits en donnant justement cet éclairage sur ce grand absent. Alors, je voulais évoquer bien d'autres points. Jaume et les femmes, vous évoquiez tout à l'heure les lettres des papes. Il y avait d'autres lettres sur les frasques de Jacques. Il disait de son père qu'il aimait beaucoup les femmes, mais lui, personnellement, il les aimera tout autant.
Il les aimera tout autant, oui, mais il assumera, je crois, sauf à la fin de sa vie, où vraiment il tombe follement amoureux d'une princesse de Castille, Berenguela Alonso, qui est un petit peu de sa cousine. Hein. Et alors là...
Ce qu'il fait, et de fait, on le traite d'incestueux.
Oui, c'est pour ça qu'on le traite d'incestueux. Mais en même temps, il s'est marié morganatiquement avec une autre dame. Et bon, le mariage morganatique, on sait ce que c'est. C'est un mariage qui ne peut pas donner aux héritiers la couronne, mais c'est quand même un vrai mariage pour l'Église. Donc, lorsqu'il abandonne cette pauvre Thérèse Agile, avec qui il s'était marié morganatiquement, parce qu'il tombe follement amoureux de cette jeune princesse de Castille, les papes lui disent, mais n'ajoute pas l'inceste à l'adultère. Parce que morganatique, mais c'est un mariage quand même.
Alors ça reste un homme de foi, vous présentez sa dévotion mariale qui était réelle. Oui. Et il avait un confesseur qui n'était pas le dernier des clercs, puisqu'il s'agit de Raymond de Peignafort, qui fut ni plus ni moins que l'auteur d'un droit canon qui fit autorité jusqu'au XXe siècle.
Oui, et qui a été même le général des Dominicains pendant 2 ou 3 ans. L'un des grands hommes, l'un des grands juristes, sorti lui aussi de l'université de Bologne.
Donc, homme de foi, Jacques.
Homme de foi, oui, homme de foi. Mais sa foi à lui. Il le dit d'ailleurs, lorsqu'à la veille de Murcie, il va se faire confesser par un frère dominicain et que bon, il lui demande l'absolution. Et le frère dominicain lui dit « Vous êtes dans l'état de péché mortel. »
Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour d'une histoire.